Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Passé de 3 minutes à la pendule, pas toujours à l'heure de la plus rebelle des radios, il est l'heure du Canu Info comme tous les jours de la semaine, 19h-20h, l'équipe du jeudi c'est Dalofine.
Oui, bonsoir.
Et Laurent. Nous avons été absents la semaine dernière.
Oh, c'est ta faute, hein. Ce n'est pas la mienne, je tiens à le dire à nos nombreux auditeurs et auditrices.
Voilà, je suis allé faire une enquête.
Que tu es coupable.
Voilà, je suis allé faire une enquête pour voir si Christine Boutin écoutait du heavy metal au festival de Loire-Atlantique, du Hellfest, et je confirme que non. A priori, elle préfère les chants religieux ou les choses comme ça. Donc nous allons faire comme d'habitude le tour de l'actualité. On va commencer par la partie internationale et on va commencer par quelque chose qui fait la suite de l'émission d'avant, puisqu'ils ont parlé de la Palestine, l'émission d'attaque. Ben nous on va commencer par la Palestine aussi, avec quelques infos qui sont sorties dans les journaux et qui m'ont particulièrement énervé, notamment tout ce qui est fait autour de Gilad Shalit. Donc Gilad Shalit, pour rappel, c'est quelqu'un qui a double nationalité, hein, franco-israélien, qui est soldat, hein, je crois, dans l'armée israélienne, qui a été enlevé le 25 juin 2006 à la bordure, à la limite de la bande de Gaza, par a priori les brigades Ezzedine Al-Qassam, donc une branche armée du Hamas. Et puis peut-être d'autres groupes d'ailleurs armés palestiniens. Depuis, il est détenu dans des conditions que l'on ne connaît pas par le Hamas, donc dans la bande de Gaza. Effectivement, pour un prisonnier, je ne suis pas sûr qu'il soit très bien traité, je ne suis pas sûr qu'il soit maltraité non plus, mais en tout cas, il n'a jamais eu de visite de la Croix-Rouge, hein, puisque personne ne sait vraiment où il est, personne n'a d'idée dans quel état il est aujourd'hui. Ce qu'on sait, les dernières news qu'on a eues, c'était d'octobre 2009, on avait vu une vidéo, avant on avait eu juste un message audio et quelques lettres. Donc voilà, la situation est là. Il y a beaucoup de mobilisation, hein, puisque notamment le CRIF en France est assez actif, puisqu'ils ont fait des manifs, j'en parlerai juste après. Le CRIF, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France, hein, qui est un groupe juif qui défend la politique d'Israël, hein, ce sont des sionistes, pro-colonisation et tout ça. Alors la question qui se pose, c'est où on en est de Gilad Shalit. Il y avait des négociations entre Israël et le Hamas pour faire un échange. Alors échanger le seul, il faut quand même savoir que Gilad Shalit, c'est le seul prisonnier israélien aux mains des Palestiniens. Donc, alors que de l'autre côté, on est à plus de 8000 prisonniers. Donc, il y avait eu une tentative de médiation à travers un médiateur allemand et l'Égypte pour essayer d'échanger Gilad Shalit contre à peu près un millier de détenus palestiniens. Ce qui laissait encore 7000 détenus palestiniens sur le carreau, hein, toujours en prison. Mais bon, c'était déjà quelque chose d'assez positif. Jusqu'à décembre dernier, on y croyait. Et depuis, tout est retombé. Il faut dire que depuis, il y a eu l'escalade qu'on a connue, l'attaque israélienne sur les bateaux humanitaires, tout ça, qui font qu'aujourd'hui, la situation des prisonniers, du prisonnier israélien et des prisonniers palestiniens reste critique. Le grand-père de Shalit, qui s'appelle Zvi, a rencontré Netanyahou, et Netanyahou a bien laissé entendre qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour l'instant pour faire libérer Shalit. Alors, il faut savoir quand même que Nicolas Sarkozy a pris position, il s'est engagé à essayer de tout faire pour obtenir la libération de Gilad Shalit. Je le redis, puisque vous allez voir que tous les Français prisonniers à l'étranger n'ont pas droit au même soutien de Sarkozy. Alors, tout ça, ça a entraîné une manifestation à Paris, c'était mardi soir, pour demander la libération de Gilad Shalit, organisée donc entre autres par le Conseil représentatif des institutions juives de France, par le Consistoire et le Fonds social juif unifié. Donc voilà, ce qu'on notera, c'est quand même des soutiens surprenants. Éric Raoult, voilà, Claude Goasguen, qui est maire du 15e, Claude Lanzmann, Alain Finkielkraut, Enrico Macias, Henri Lévy, Elie Chouraki. Ils avaient même demandé à la mairie de Paris de remettre mettre le portrait géant de Gilad Shalit sur la face de la mairie de Paris, que la mairie a refusé en disant qu'elle avait déjà un grand panneau de soutien à tous les otages dans le monde, ce qui est pour le coup une bonne idée, plus consensuel que de mettre simplement ce seul prisonnier là alors qu'il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Alors ça, c'est pour dire ce qui s'est passé donc depuis mardi sur la médiatisation de Gilad Shalit et de son emprisonnement. Maintenant, on va parler de quelqu'un d'autre, puisqu'il y a d'autres Français qui sont prisonniers dans le monde. On va revenir, on le dit souvent, mais on va quand même leur dire qu'il y a un autre Français qui est détenu, qui s'appelle Salah Hamouri. Lui, il est détenu depuis plus longtemps, hein, puisque ça va faire 5 ans maintenant qu'il est détenu par l'Israël. Hein. Donc Salah Hamouri, il n'est pas franco-palestinien comme on l'entend, il est français. Hein, puisque être palestinien, c'est pas un passeport, hein, ça n'existe pas, l'État n'existant pas, donc il est de nationalité française. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir soi-disant faire partie du FPLP, le Front pour la Libération de la Palestine, et d'être passé devant le domicile de Yosef Ovadia, chef du parti Chasse, c'est un rabbin d'extrême droite israélien, et sous le fait qu'il soit passé là-dessus, devant chez lui, on l'a accusé donc d'avoir préparé son assassinat. Il n'y a aucune preuve, il y a une condamnation de 7 ans de prison, juste pour un délit d'intention. Ils n'ont rien trouvé chez lui, rien trouvé sur son disque dur. Il n'y a rien qui a jamais pu démontrer que Salah Hamouri avait envie de tuer ce rabbin d'extrême droite. Rien. Et il a été condamné. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'égalité dans les Français retenus à l'étranger. La famille de Salah Hamouri a demandé à être reçue par Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy a refusé. Et Nicolas Sarkozy n'a rien fait pour faire libérer ce Français détenu par Israël suite à un procès qui ne répond pas du tout aux normes internationales de justice, puisque c'est un procès militaire. Hein, c'est pas du tout un procès civil, un tribunal militaire. Donc voilà, il a été jugé et condamné. Voilà. Donc c'est pour rappeler que c'est bien beau de se mobiliser pour un prisonnier, mais qu'il y a, il y en a d'autres, et puis surtout il y a plus de 8000 prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes, dans des conditions qui sont inqualifiables et qui sont horribles. Allez, parlons un peu du Bangladesh. Est-ce que c'est un petit peu mieux que la situation israélo-palestinienne au Bangladesh?
On parle souvent des grèves actuellement qui touchent la Chine, et en particulier les ouvriers qui commencent à se mobiliser dans les usines. Et bien, il faut savoir qu'au Bangladesh, ça a beaucoup bougé depuis le 19 juin, puisque 800 000 ouvriers travaillant dans 700 usines textiles s'étaient mis en grève. Ils ont repris le travail hier, mercredi. Vous avez bien entendu, hein, 700 usines textiles touchées. Il y avait eu des manifestations assez violentes, puisque par exemple mardi, la police anti-émeute est intervenue, elle a tiré des balles en caoutchouc, mais enfin on vous rappelle que les balles en caoutchouc
ça tue,
ça crève des yeux, hein, on vous rappelle certaines histoires. Ils ont lancé évidemment des lacrymogènes sur les manifestants. Il faut dire qu'en face, les ouvriers avaient érigé des barricades, fait cramer les pneus, hein, à l'ancienne, hein, une bonne vieille grève avec tout ce qui feut. Bon, il faut dire qu'ils ont un peu aussi mis le feu à des camions et un peu empêché tout ce qu'il y avait dans les usines de pouvoir sortir. C'est-à-dire que même le stock était bloqué. Non seulement la production a été bloquée, mais le stock aussi. Bon, ils s'en sont pris évidemment aux forces de l'ordre, hein, mais étant donné qu'ils se sont fait tirer dessus, la réponse est venue aussi de leur côté. Alors, le patronat, hein, des fabricants et des exportateurs de textiles avaient du coup décidé de tout fermer dans les usines, mais enfin en même temps a priori ils n'avaient pas bien le choix. Et puis finalement là, face à une réaction un petit peu de l'État et du ministre du Travail qui a dit oulala attention, on va intervenir, ils ont décidé de rouvrir les usines puisqu'il y a négociation. Il faut savoir que c'est des usines qui travaillent pour de grandes enseignes multinationales, hein, puisque c'est Walmart, H&M, Tesco, Carrefour, Metro, hein, vous savez le numéro 1 allemand qui d'ailleurs est en train de licencier 900 personnes en Allemagne, c'est énorme. Et puis aussi des marques, hein, comme Gap ou Lévi-Strauss qui font produire au Bangladesh. Alors les ouvriers, ils exigeaient un salaire de moins 5000 takas. Il faut savoir que ça fait à peu près 60 euros. Pour l'instant, ils en ont que 2000 takas. Donc ils vivent quand même dans une situation de précarité et surtout de pauvreté extrêmement importante. C'est le Bangladesh, le pays où les ouvriers du textile sont le moins bien payés de la planète, hein, donc ça explique aussi leur colère.
Et c'est pour ça que les multinationales sont là-bas, hein, c'est parce qu'elles veulent payer le moins possible, elles en ont rien à foutre que les ouvriers crèvent de faim.
Oui, parce que, il faut savoir que c'est 2 millions de personnes au Bangladesh qui travaillent pour l'industrie textile, pardon, c'est à peu près 40% de la main-d'œuvre nationale, c'est 4000 usines, donc c'est quand même beaucoup de monde qui s'est mis en grève sur cette action. Et puis il faut savoir que la plupart c'est des femmes, donc c'est aussi elles qui ont se sont fait tabasser par les flics, hein, il faut bien se rendre compte de ça. Évidemment le Bangladesh pour l'instant, comme tu le dis, c'est une alternative à la Chine, hein, puisque la Chine est en train de réagir, les ouvriers sont en train de s'organiser, même si les syndicats sont interdits. Et ben voilà, dans tous les pays en voie de développement ou sous-développés comme disent certains, et ben ça bouge, donc c'est une bonne chose. Et évidemment, c'est important cette solidarité internationale qu'il peut y avoir entre tous les travailleurs, puisque le patronat de tous les côtés, bah, ils en profitent. Ils vont un coup en Chine, un coup au Vietnam, un coup au Bangladesh, donc ils se trimballent d'une usine à une autre en faisant pression sur le patronat local et donc forcément sur les ouvriers. D'où l'importance pour tout le monde, tous les travailleurs, de continuer à savoir ce qui se passe au Bangladesh, en Chine, en Tunisie et au Maroc, pour évidemment en tant que consommateur ne pas faire n'importe quoi, et puis en tant que travailleur, eh ben on appelle à la solidarité, puisque quand vous travaillez par exemple chez Metro en Allemagne qui est en train de licencier, eh ben vous savez qu'en même temps ils exploitent les gens de l'autre côté. Donc voilà, là c'est une lutte quand même assez importante et on espère que ça va continuer dans ce pays. C'est pas courant, donc c'est plutôt une bonne chose, quoi.
Alors on va parler un peu des baleines.
Ouais, parce qu'alors là, bon, on savait peut-être pas, mais il y a une réunion à Agadir au Maroc qui s'est tenue depuis lundi et qui est jusqu'à demain. Une réunion qui a tourné court effectivement sur les moratoires à la chasse à la baleine. Vous savez qu'il y a trois pays qui résistent, le Japon, l'Islande et la Norvège, qui n'en ont à peu près rien à faire du moratoire qui date de 86. Sur la chasse à la baleine, puisque dès hier, pouf, tout est tombé à l'eau, les discussions se sont arrêtées, malgré la présence de quand même 74 pays membres, hein, de la commission baleinière internationale. C'est elle qui organise en fait cette réunion à Agadir, puisqu'ils ont décidé, ces trois pays, le Japon, l'Islande et la Norvège, de continuer à faire exactement comme ils veulent. Alors il faut savoir que vous avez la Norvège et l'Islande qui ont décidé de ne pas du tout appliquer le moratoire, et puis vous avez le Japon qui sont des petits malins, qui eux chassent à des fins scientifiques.
Oui, c'est l'excuse du Japon, c'est pas mal. Et en chassant des fins scientifiques, ils ont le droit de revendre la baleine.
Alors, ils ont chassé quand même les trois pays 1500 baleines en 2009, qui est quand même beaucoup, hein, c'est un gros gros chiffre. Alors, il y a effectivement des associations de protection de l'environnement qui se disent agacées que les discussions n'aient pas pu aboutir, agacées de voir ces trois pays faire ce qu'elles veulent face aux autres pays et puis face aux organisations internationales. Et puis, par contre, il y a par exemple une association française, hein, Robin des Bois, qui elle trouve que bah, finalement c'est pas si mal que ça se passe comme ça, parce que ça veut dire qu'au lieu que la proposition de la Commission baleinière internationale. En fait, cette proposition de la Commission baleinière internationale était en fait d'essayer de mettre en place des quotas. Bon, bah, ça n'a pas marché puisque les trois pays ont décidé de faire comme ils voulaient. Donc, du coup, on repart sur cette idée de moratoire complet. Donc, pour Robin des Bois, eux, c'est plutôt une bonne chose puisqu'ils se disent, bah, après tout, les quotas, on sait que c'est de la cochonnerie. Ça permettait à ces pays de continuer à chasser la baleine. Là, au moins, on repart dans le vif du sujet, même si il est vrai que du coup, on se retrouve quand même face à des États voyous, hein, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait les appeler, qui continuent à faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et puis, pour continuer un petit peu dans l'international, je vais faire mon anti-Google et mon anti-Apple un petit peu comme je vous le fais souvent, puisqu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une nouvelle enquête contre Google Street View qui est lancée. Elle a été annoncée lundi 21 juin. C'est en fait 30 États hein, quand même qui sont derrière cette affaire. Pour savoir si Google a enfreint la loi. Alors vous savez, l'Allemagne s'était un peu plainte suite à ces vidéos que Google prend en fait pour ensuite pouvoir vous montrer sur leur site internet les rues avec les numéros des rues. Et donc plusieurs déjà pays s'étaient plaints de l'illégalité puisque les gens pouvaient se reconnaître, vous voir quelquefois sur certaines photos, on pouvait voir un petit peu sur les rez-de-chaussée, les plaques d'immatriculation des voitures. Donc aux États-Unis, ça s'agace un peu parce qu'en fait, en faisant un petit peu leur passage dans les rues, Google, ils ont aspiré, siphonné les données personnelles de tout ce qui venait des réseaux sans fil, en fait, sur les réseaux Wi-Fi. Alors Google, ils disent, oulala, tout ça, on l'a pas fait exprès, c'est pas notre faute. Juste qu'en faisant tout ça, ils ont siphonné les mots de passe, enfin, tout ce qui, normalement, vous êtes extrêmement personnel. Apparemment, ils auraient même siphonné les emails des individus. Hein, c'est pas mal, quand même. Hein. Après, on nous dit que Google, c'est une entreprise qui répond bien à la loi. Dès l'annonce lundi de cette enquête donc du procureur général du Connecticut, l'action de Google a perdu 2,29%. Donc comme quoi quand même ça inquiète un petit peu tout le monde ces affaires. Et puis Apple qui est un petit peu comme Google, hein, moi c'est vraiment des sociétés, des multinationales que je n'aime pas puisqu'on les accuse souvent de rentrer dans l'intimité des gens et d'utiliser les données personnelles. Et ben là Apple a décidé donc a changé un petit peu même carrément sa politique de confidentialité puisque la localisation géographique en temps réel tout ça est, donc ça change dans ces données puisque maintenant c'est précisé que les utilisateurs de d'iPhone, d'iPad hein, ou d'iPad on dit comme on veut qui téléchargent sur iTunes Store vont perdre un petit peu de la confidentialité puisque toutes les données qui seront données par l'utilisateur pourront être réutilisées par d'autres. Et il faut savoir que s'il y a des moments où vous refusez de donner un certain nombre d'informations, vous ne pourrez pas télécharger sous iTunes Store. Donc voilà, Apple et Google sont un petit peu dans la mettre dans le même sac, évidemment, c'est-à-dire des voleurs d'informations, d'informations personnelles, évidemment.
Le Canu Info de Radio Canu.
Voilà, donc on attaque la partie nationale de ce Canu Info et on va parler, on aurait presque pu ouvrir avec ça, sur les manifs du jour, hein, puisqu'il y avait mobilisation, manif et grève. Mobilisation pour défendre un système de retraite un petit peu plus sympa, un peu plus égalitaire. Alors, c'est suite à l'annonce de la réforme du gouvernement, qui est plutôt une réforme régressive pour le salarié, puisqu'on a, on va avoir augmentation des cotisations, en tout cas pour les fonctionnaires, et puis augmentation de la durée du travail. Il faut quand même imaginer un truc, c'est que même si la gauche, les syndicats sont obnubilés par l'âge de départ à la retraite, hein, qui va passer à 62, 63 ans, c'est pas du tout le problème, l'âge de départ à la retraite. Le plus gros des problèmes, c'est les annuités de travail qu'il faut pour pouvoir partir à la retraite. Hein, pour l'instant, enfin, on va tendre vers le 43 et peut-être le 45. Quand on aura besoin de travailler 45 ans, comme aujourd'hui, comme on fait des études, on travaille, le premier travail, on l'a à peu près à 24, 25 ans. Ça veut dire qu'avec ces 45 ans de travail nécessaires pour avoir une retraite pleine, il faudra travailler jusqu'à 70 ans. Alors même si l'âge de la retraite il reste fixé à 60 ans ou à 62 ou à 63 ans, Si vous voulez avoir une retraite digne de ce nom, il faudra partir à 70 ans. Donc voilà, donc c'est des vraies régressions. Et c'est pas parce que le système est en déficit, on le rappelle. Alors je vous laisserai aller sur différents sites, notamment le site de la CNT, le site de plein d'autres. Enfin, il y a plein d'endroits où les gens ont analysé avec des chiffres que c'est un choix politique de régler le problème de ces déficits par l'allongement de la durée du travail. Il suffirait de répartir mieux les richesses, puisque c'est pas un problème de richesse en France, c'est un problème de répartition. Puisque l'argent est disponible, on rappelle que le salariat a diminué de 10% en 20 ans, et donc effectivement les 10% qui manquent, forcément ça manquera à la sécu, ça manque dans les caisses de retraite, ça manque de partout. Donc grosse mobilisation française, hein, presque 2 millions de personnes dans les rues. À Lyon, un gros cortège, on était à peu près 25 000, donc c'est vraiment très impressionnant, de gens mobilisés, grévistes et mobilisés, voilà. Alors pour donner un petit peu des chiffres, la SNCF, on avait à peu près 50% des trains qui circulaient, grosso modo 50% des TGV, des TER, ça veut dire à peu près entre 39 et 45% de grévistes. Dans le transport aérien, on ne sait pas bien le nombre de grévistes, mais ce qu'on sait, c'est que la Direction Générale de l'Aviation Civile avait demandé aux compagnies aériennes de réduire de 15% leurs vols, hein, donc ça veut dire que voilà, finalement, il y a eu 15% de pollution en moins pour ceux qui habitent autour des aéroports, c'était déjà ça de gagné. Dans la fonction publique, à peu près 20% des agents de la fonction publique en grève. Les enseignants, on est à peu près à 32%, chiffre du ministère, donc peut-être un peu plus dans la réalité, donc 10% dans le secondaire, alors c'est 32% dans les écoles, 10% dans le secondaire et 18% dans les collèges. Il n'y a pas de chiffre pour les lycées, faut dire qu'aujourd'hui il n'y a presque plus personne en lycée, puisque les profs sont soit en train de corriger le bac, soit en train de se reposer, et ont sûrement manifesté, mais n'ont pas forcément fait grève, puisqu'il fallait le déclarer, il fallait aller dans son lycée et qu'on n'était pas forcément au lycée cette semaine-là. Donc les chiffres sont un peu faibles pour les... On n'a pas les chiffres pour les lycées parce qu'ils n'ont pas de sens. Mais il y avait des profs mobilisés dans les manifestations. La Poste, à peu près 20% de postiers en grève. Les radios, Radio France était en grève aussi, hein, parce qu'on a, je ne sais pas ce qu'il y a donné ce soir, mais ce matin, il n'y avait pas de journal. La Comédie Française a annulé une représentation, la représentation de ce soir, donc ça veut dire que dans la culture aussi, ça s'est mobilisé. Ce qu'on notera, on va faire le tour de tous les secteurs, mais il y a de la mobilisation hors syndicat. On a vu l'AFNA, l'association des accidentés de la vie, l'ANDEVA, l'association qui défend les victimes de l'amiante, manifester aussi pour une meilleure prise en compte de la pénibilité au travail. Hein, on rappelle qu'il y a, grosso modo 7 ans aujourd'hui d'espérance de vie en moins pour un ouvrier que pour un cadre. Et pourtant, ils ont le même âge de départ à la retraite, c'est bizarre, et le même nombre d'années de cotisation. Il y a même une asso qui s'appelle Oser le féminisme qui s'est mobilisée parce que la réforme est plutôt un pas en arrière pour les femmes, notamment qui ont des enfants. Enfin voilà, la mobilisation était quand même relativement importante, assez globale dans la société. Ce qu'on notera, c'est la trahison de certains, hein, l'interview de Michel Rocard, absolument horrible dans France Soir, ça devait être hier ou avant-hier, où il dit que le PS se trompe de combat en critiquant cette réforme. Il trouve que la réforme est plutôt pas mal, et courageuse, dit-il, même si tous les problèmes ne sont pas réglés. C'est quand même honteux d'entendre un soi-disant socialiste dire tout ça. Alors il revient sur un truc, parce qu'on a tous en tête la symbolique de Mitterrand qui arrive et qui dit qu'il passe l'âge légal de départ à la retraite de 65 à 60 ans. Il explique à l'époque, les ministres, donc Delors, Fabius, étaient totalement contre cette réforme et que Mitterrand avait fait ça pour faire plaisir au Parti communiste. Et ben ouais, donc les socialistes ont toujours été des traîtres, même en 81, sauf qu'en 81, il y avait la pression des communistes et ça a fait gagner à pas mal de personnes 5 ans de travail en moins et donc 5 ans de vie peinard en plus grâce aux cocos français de l'époque de 81. Je vais pas défendre les communistes non plus, mais c'était vraiment un truc positif. Et donc voilà, c'est bon, juste pour dire que les socialistes, même s'il y avait quelques drapeaux socialistes à cette manifestation, sont vraiment des traîtres, surtout qu'ils sont obnubilés par l'âge de départ à la retraite et pas le nombre d'annuités, et que finalement ils sont dans un discours électoraliste. Donc voilà, cette journée de mobilisation aura-t-elle un sens, aura-t-elle servira-t-elle à quelque chose? On est sceptique, hein, on sait que pour faire bouger les choses, il faudrait...
Moi, je suis sceptique, là, c'est là où on est d'accord.
Oui,
où
ça ne fera pas bouger les choses.
Toujours défendre nos luttes et descendre dans la rue. C'est quand même... C'est pas parce que nous sommes ignorés par M. Sarkozy qu'il faut continuer à rester chez soi, mais à descendre.
Non, mais l'idée, c'est pour faire pression... Là, ce n'est pas une journée qui fait pression sur Nicolas Sarkozy, c'est une pression qui permet à des gens de ne pas travailler un jour. Mais c'est une grève reconductible, générale, qui permettrait de faire pression sur le gouvernement et le faire reculer. Alors que là, naturellement, il ne va pas reculer, puisque demain, on n'est pas à nouveau pas en grève. Donc demain, l'économie est repartie. Et si l'économie est repartie, tout va bien, il n'y a plus de pression. Sarkozy, il a eu de la pression quelques heures aujourd'hui, et donc ce qui ne le fera pas changer d'avis.
Oui, alors il faut savoir qu'ailleurs ça peut être pire, alors je dis pas ça pour justement vous restiez chez vous, mais bien pour que vous descendiez encore dans la rue et que vous vous disiez que merde, ça pourrait nous tomber dessus, puisque effectivement si l'âge légal de départ à la retraite c'est passé un cas important, n'empêche que quand on voit ce que nous annonce le gouvernement britannique, aujourd'hui on se dit, merde, alors c'est pas le nouveau Premier ministre qui a inventé cette radicalisation dans l'âge de départ à la retraite, mais il est bien repris par le tout nouveau en place, puisqu'il parle d'accélérer cette mise en place de départ légal à 66 ans pour très très vite atteindre les 68 ans. Vous avez bien entendu, 68 ans, quand on sait qu'aujourd'hui l'espérance de vie est de 77 ans chez les hommes, de 81 ans chez les femmes. 77 ans, c'est-à-dire que vous arrêtez à 68 ans, vous n'avez même pas 10 années pour espérer en faire quelque chose.
Pour un cadre, c'est l'âge moyen, mais vous imaginez, vous êtes travailleur dans le bâtiment, vous portez des sacs de ciment, vous portez des trucs lourds, à 67 ans, il vous reste un ou deux ans d'espérance de vie. Donc c'est sympa, le système.
Donc voilà, vous voyez, ailleurs c'est pas mieux, mais c'est ce qui pourrait nous arriver demain si on laisse M. Sarkozy. Non, nous allons y mettre du conditionnel parce que nous allons continuer la lutte.
Bon, parle-nous de Sarko, là, qui fait des siennes, là.
Oui, alors justement, parce que, alors, franchement, M. Sarkozy, effectivement, on ne l'a pas beaucoup intimidé aujourd'hui, a priori, il s'en fiche un peu. Bon, on espère quand même que du coup, il dort mal, puisqu'aujourd'hui, il devait rencontrer des organisations non gouvernementales, des ONG françaises, pour préparer les sommets du G8 et du G20 qui vont avoir lieu en Amérique du Nord.
Mais il en a rien eu à foutre.
Ouais, alors c'est un rendez-vous qui est institué depuis 8 ans, qui est en place à chaque fois, qui est normalisé et qui se fait. La dernière fois que ça avait été annulé, c'était lorsque l'otage franco-colombienne Ingrid Betancourt avait été libérée. C'était une raison a priori suffisante pour calmer les ONG, mais là, il n'y a eu aucun motif. Sauf que les ONG, face à cette annulation de réunion, se sont dit, tiens donc, mais qui M. Sarkozy voit-il aujourd'hui? Eh bien, il faut savoir qu'à la place, il a rencontré qui? M. Thierry Henry, vous savez? Le footballeur, celui à la main mal placée. Voilà. L'Élysée dit non, c'est pas vrai. Nous n'avons pas annulé une réunion aussi importante avec les ONG pour rencontrer un footballeur. N'empêche que la coordination des ONG se dit que c'est exactement pour ça. Le football est toujours plus important, puisque je vous rappelle que M. Sarkozy a lancé les états généraux du football pour la rentrée. Donc voilà, face au démembrement du code du travail, de nos retraites, de la santé et de l'éducation, on préfère le football apparemment à l'Élysée.
Ouais, on va parler un peu de racisme. On sait que le racisme ordinaire, qui n'est pas mesuré par l'État français, notamment le racisme des fonctionnaires et particulièrement des forces de l'ordre, est important. Quand vous regardez des voitures arrêtées, des scooters arrêtés, vous verrez que c'est souvent des Noirs ou des Maghrébins. Et on a eu le plus bel exemple du monde, de ce racisme au quotidien que peuvent subir ceux qui sont pas blancs, blonds, aux yeux bleus, puisqu'on a ce pauvre facteur
à Rennes qui s'est fait arrêter, contrôler par la police. Alors, il faut savoir que quand on lit et on a écouter un petit peu les médias, ce que retient surtout TF1 par exemple, puisque tout le monde en a un petit peu parlé, c'est que ce monsieur s'est fait arrêter pour avoir tenu son guidon d'une seule main et qu'il a pris une amende de 22 euros. C'est ce qui semble choquer tout le monde, ce qui certes est extrêmement choquant.
Guidon de vélo, alors que effectivement, notamment quand on tourne, si on est assez agile, c'est bien de tendre la main pour montrer qu'on tourne. Donc on ne tient le guidon que d'une main.
Bon, et puis alors, on s'en fout un peu.
Et puis il travaillait, c'était son métier, il est postier, il était à vélo.
On va peut-être effectivement expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc cet homme travaillait, il est facteur, on vous le disait, facteur à vélo, ça se déroule donc à Rennes, un samedi, c'est 11h du matin, il a fini sa petite tournée, et donc qu'il tienne son guidon avec une main, pourquoi, comment, finalement on s'en fiche un peu, puisque voilà. Toujours est-il que des policiers qui sont en voiture derrière lui, hop, lui demandent de s'arrêter, de lui présenter les papiers qu'il n'a malheureusement pas sur lui. Allez savoir si ça aurait changé quelque chose, je n'en sais rien. Donc ils veulent l'embarquer direct au commissariat, et ils ont voulu qu'il mette le vélo dans la bagnole. Alors lui, évidemment, il a refusé. On vous rappelle que c'est son vélo de travail, hein, il n'était pas en loisir à ce moment-là. Il a voulu prévenir son chef. La police a refusé. Du coup, bon, après, finalement, discussion, chacun se rend au commissariat de son côté, lui avec son petit vélo, les policiers dans leur petite voiture. Et sur place, ça continue contre lui, puisqu'on lui fait passer un test d'alcoolémie, négatif. Il continue à ne pas vouloir le laisser appeler son chef. Je vous rappelle, hein, il était quand même en train de travailler. Normalement, vous avez le droit d'appeler, hein, quelqu'un de votre famille, enfin, ou en tout cas, eux doivent appeler, sinon quelqu'un de votre famille ou votre patron. Hein, c'est, le patron est tout à fait contactable. Et puis surtout qu'il aurait eu un petit peu quand même des remarques assez déplacées. De toute façon, il ne citait pas chez toi, ce genre de choses. Et il est ressorti donc ensuite avec une amende de 22 euros, dont le motif officiel est, et je cite, que le cycliste ne pouvait effectuer les commandements et manœuvres qui lui incombent. Eh ben dis donc, hein. C'est vrai qu'on voit tellement de gens conduire leur voiture avec un téléphone qui, eux, ne se font jamais arrêter, ou pratiquement jamais, hein, parce que c'est quand même pas si courant, ou en train de manger un pain au chocolat, hein, puisqu'on vous rappelle qu'il vous devez avoir les deux mains sur votre volant.
Donc, sauf quand vous passez les vitesses.
Voilà, donc au-delà du fait... Oui, c'est
parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas toujours les deux mains sur le volant et les deux mains sur le guidon, pas possible.
Donc, au-delà du fait que l'amende est complètement débile, les 22 euros pour ne pas avoir tenu son guidon des deux mains, on y voit surtout, nous, un racisme latent de la part de la police qui, comme d'habitude, s'en prend au même. Hein. On aurait bien aimé savoir ce que ça faisait si un facteur de couleur, de peau blanche, avait tenu même pas du tout son guidon. Il avait pédalé à l'ancienne, hein. Voilà, comme dans les films de Jacques Tati. Voilà, encore une arrestation faciès de la police française. Ouais.
On va parler un peu d'économie de Veolia, puisqu'on a appris aujourd'hui qu'ils avaient, contre toute attente, enfin, en tout cas c'est ce que je pouvais espérer, obtenu la distribution d'eau potable dans les 140 communes d'Île-de-France gérées par la CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, sous la direction du célébrissime André Santini. Donc voilà, il faut savoir que Veolia détient le contrat depuis 1923. Alors, paraît-il, il y avait deux concurrents, et que c'est Veolia qui l'a emporté parce que Veolia était moins cher, donc ils ont annoncé qu'ils baisseraient le prix de l'eau. Alors comme ça fait depuis 1925 qu'ils sont là, il y a une association qui défend les consommateurs d'Île-de-France sur l'eau, l'association d'usagers coordination eau Île-de-France, qui se sont dit, mais attendez, ils viennent de nous dire qu'on payait trop cher en fait, puisqu'ils sont prêts à baisser le prix. Donc ils nous ont volé pendant des dizaines d'années, donc ils ont fait des manifs pour gueuler en disant « Ok, vous avez baissé votre prix, ça veut dire qu'avant vous nous avez volé ». Et donc voilà, ils ont fait des manifestations. Il faut savoir quand même que Veolia a été épinglé plusieurs fois, notamment par la Chambre régionale de la Cour des comptes, par l'UFC Que Choisir. Et puis on rappelle qu'il y avait une autre solution qui n'a pas été envisagée par la CEDIF, mais qui est la municipalisation de l'eau. On sait que grosso modo, quand on décide de remunicipaliser le prix de l'eau baisse entre 10 et 20%, hein, puisque c'est les 10 et 20% de bénéfices qui vont dans la poche de Veolia et des actionnaires de Veolia. Ça, on peut les enlever et donc ça coûtera encore moins cher. Vraisemblablement, Paris est très en retard, enfin l'Île-de-France plutôt, est très en retard sur la municipalisation. Donc c'est quand même le plus gros contrat de délégation de services publics qui existe chez nous pour l'instant. Donc voilà, c'est resté dans le sein du capitalisme. Donc Veolia va continuer d'engranger de l'argent sur les buveurs d'eau.
Ouais, c'est assez classique dans l'énergie, malheureusement, de voir les choses nous échapper, et en particulier au niveau des tarifs. Alors moi, je vais revenir un petit peu sur Adopi.
Ouais, ouais, famille. Ouais. Donc je vous rappelle, avant septembre, vous êtes encore tranquille.
Alors, il faut savoir que quand même la propagande continue, et on la trouve pas forcément là où on s'y attendait, puisque Il y a une petite vidéo qui a fait beaucoup scandale sur un site éducatif de France 1 qui s'appelle curiosphere.tv. Une petite vidéo qui est normalement faite pour les jeunes, qui n'est pas financée par Hadopi, hein, par la haute autorité, mais bien par le site France 5. Une petite vidéo, donc un dessin animé, qui nous explique comment télécharger, c'est mal, puisque nous y voyons le personnage Super Crapule, qui est donc forcément boutonneux avec des dents de travers et qui a un masque sur la figure, hein, forcément.
Ah, ça ressemble à ça, un téléchargeur.
On est moche, hein.
Ouais, c'est
voilà,
connu.
Hein, déjà, voilà, ça c'était assez basique, vous auriez bien compris. Qui nous explique comment ça marche le téléchargement et que c'est très très mal. Alors, au-delà du fait qu'effectivement c'est plein de caricatures, puisque forcément la super crapule, le méchant, il est moche, comme je vous le disais, il a des boutons, et enfin tout est fait pour l'enlaidir. Hein, à côté, vous avez donc le gentil qui arrive en bleu, magnifique, qui lui est beau, en super-héros, pour expliquer aux petits enfants
qu'il ne faut pas télécharger.
Alors, le problème, c'est que les explications sont assez fausses, puisqu'il donne des exemples sur vous pouvez être puni de telle manière, il vous explique que les ayants droit, c'est eux qui vont donner les adresses IP, tous les bazars. Non, ils portent des plaintes, c'est quand même beaucoup plus compliqué les démarches pour vous amener en justice. Hein, ça se fait pas juste avec un claquement de doigts, encore heureux. Mais c'est surtout qu'ils amènent jamais les propos finalement négatifs sur cette loi. C'est un truc, un matraquage, hein, puisque la super crapule qui télécharge, elle a une espèce de gros tracteur qui passe sur les artistes, enfin voilà, qui écrase tout le monde, hein, c'est forcément, il s'en met plein les yeux et les oreilles sans dépenser un radis, c'est ce qu'il dit, ou alors il dit, bien caché derrière mon ordinateur, je me gaffe comme un ouf. Voilà, une belle propagande. Non, mais ça te fait rigoler, mais c'est énorme tellement c'est caricatural cette petite vidéo. Alors, il faut savoir qu'elle a été retirée du site de France 5 depuis le scandale. Parce que le scandale, il est parti en deux jours. Alors, ça, vous pouvez taper sur votre moteur de recherche préféré. Vous trouverez encore des vidéos sur certains sites qui ont réussi à la garder. Par contre, sur YouTube et Dailymotion, ça a été retiré en disant, vous savez, cette petite phrase ne correspond pas à la légalité des machins et des trucs. Donc, on la trouve plus. Le nettoyage a quand même été rapidement fait. Mais c'est vrai que la petite vidéo est pleine d'erreurs factuelles, mais vraiment qui sont assez bêtes. Et en plus de ça, à côté, il y a un PDF qui était fait pour les enseignants, puisque, si vous voulez, ce site de France 5, Curiosphere, il est fait pour les enseignants et puis pour les élèves. C'est censé accompagner, c'est censé être un site pédagogique. Le PDF, j'espère que peu de profs vont s'en servir, ou en tout cas peu d'instituts vont s'en servir.
On n'est pas à l'abri d'un collaborateur avec le système. Tu
sais. Malheureusement, ce genre de choses risque d'arriver, puisque dans cette fameuse... Hadopi, hein, dans cette fameuse loi, il est dit qu'il doit y avoir des messages à l'attention de la jeunesse pour leur apprendre que le téléchargement illégal, c'est mal. Donc ça va certainement réarriver. Le problème, c'est que là, on est dans une caricature assez énervante et que les à côté qui devaient soi-disant participer à amener les jeunes à la culture, et ben ils sont retardés puisque le lancement de la carte musique jeune, ben elle est un peu repoussée, n'est-ce pas? Vous savez, c'est un dispositif proposé par Patrick Zelnick, hein, et qui est poula un pro Hadopi, qui fait partie de la mission, donc. Une mission encore, c'est-à-dire qu'on paye des gens à ne rien faire dans des commissions et des groupes de travail, tout ça financé par vos impôts. Donc c'était un dispositif qui devait permettre de relancer le marché de la musique, au lieu que les jeunes aillent télécharger. On devait, si vous connaissez un petit peu les cartes EMRA sur ces systèmes-là, bah c'était un peu les mêmes principes. Hein. Vous aviez des facilités d'achat, voilà, et c'était quand même quelque chose, un dispositif qui doit coûter 25 millions d'euros à l'État, sur une période de 3 ans, c'était pour les 12-24 ans, et c'était censé permettre d'injecter 50 millions d'euros dans le marché de la musique en ligne. Bon, bah voyez, c'est bien beau de vouloir lutter contre le téléchargement illégal, mais en même temps, tout ce qui est fait pour amener les jeunes à la culture, bah, c'est encore repoussé, mais en même temps, c'est peut-être pas en lançant des cartes de ce type que les jeunes iront vers la musique et vers la culture en général.
Ouais, non. Allez, un petit mot presque positif sur le biphénol A, on en a parlé plusieurs fois, c'est une... C'est un petit truc un peu pourri hein, qui est présent dans certaines matières plastiques, qui sert notamment à fabriquer des bouteilles ou des biberons. On a parlé plusieurs fois puisque il y a eu le scandale français du biphénol A, c'est-à-dire que des agences d'État disent que c'est pas dangereux, alors que presque tous les pays du monde commencent à l'interdire ou l'ont déjà interdit. Là aujourd'hui, hier, l'Assemblée nationale a définitivement approuvé la suspension de la commercialisation des biberons contenant cette substance donc de biphénol A. Alors, faut savoir que au départ, il y a eu une proposition de loi d'un sénateur radical de gauche plutôt, Yvon Collin, qui demandait lui initialement à interdire ce composé chimique qui est toxique pour leur production dans tous les plastiques alimentaires. Ce qui aurait été finalement logique, parce qu'on sait que c'est un perturbateur endocrinien, ça joue sur la reproduction, etc. Bon, lui, il avait demandé ce qu'il soit définitivement exclu de tout l'alimentaire. Sauf que les entreprises du plastique sont pas d'accord. Elles ont fait pression sur les députés, sur les sénateurs, et les sénateurs ont donc réduit le champ d'application de la mesure au seul biberon. Donc on va protéger que les bébés. Hein, grosso modo, c'est ça.
Je veux dire qu'ils seront intoxiqués plus tard, en fait.
Voilà Alors on sait que l'impact est moins important sur les adultes que sur les bébés, mais effectivement, Alors. Il y a eu plusieurs étapes hein, dans cette interdiction du biphénol A à l'étranger notamment, parce que au début, par exemple, aux États-Unis, puis dans pas mal d'autres pays, c'est interdit que pour les biberons aussi. Sauf qu'aujourd'hui, le Canada, le Danemark, le Costa Rica et certains États américains ont élargi à tous les plastiques alimentaires. Donc ça veut dire que la France le fera dans 5 ou 10 ans. Mais comme la France est très proche du monde industriel et très loin de la santé publique, elle choisit de défendre le monde industriel à tel point qu'il y avait même un élu qui avait proposé des dates pour repousser l'échéance à 2012 pour laisser aux industriels le temps de se mettre en place et de mettre des solutions, de mettre des produits de substitution, alors que tous les industriels du monde savent fabriquer des bouteilles plastiques sans biphénol A, il n'y a pas de souci. Même si Nestlé semble un peu à la bourre sur Danone d'après ce qui se dit, ils savent tous faire. Donc voilà, c'est une demi-victoire, mais il y aura encore de ces produits toxiques dans nos plastiques. Tu veux parler peut-être un peu de drogue là?
Non, j'allais plutôt vous parler de ce qui s'est passé à Lens, dans le cadre des prisons, encore une fois, c'est l'Observatoire international des prisons qui a émis un communiqué. C'est encore malheureux, hein, mais donc c'est un jeune homme qui a été incarcéré au centre pénitentiaire de Longnay, c'est dans le Pas-de-Calais. Il a été hospitalisé d'office dans une chambre d'isolement du service psychiatrique du centre hospitalier de Lens. À ce moment-là, il a été maintenu attaché à son lit pendant près de 2 semaines pour soi-disant prévenir un risque suicidaire. 2 semaines attaché à un lit, ça veut dire attaché avec une ceinture ventrale et puis des sangles au niveau des pieds et des mains pendant 2 semaines. Pas détaché, puisque son avocate est allée le voir. Elle n'a pas pu le voir dans la pièce prévue à cet effet, hein, une rencontre entre avocat
et détenu,
mais dans la chambre de celui-ci. Donc, et il a été toujours sanglé et attaché, maintenu. Hein, je vous rappelle, il y a une sangle aussi autour du ventre, hein, quand même. Donc l'OIP, hein, l'Observatoire international des prisons, a joint l'hôpital. Et on lui a dit que oui, alors il était dangereux pour lui-même, donc c'était quand même une mesure de précaution, jusque la famille, elle, quand elle a appelé, c'est pas tout à fait ce que l'équipe soignante lui a dit, c'était en fait une mesure de prévention, puisque le détenu, il avait un antécédent d'évasion lors d'une précédente hospitalisation. C'est absolument interdit de maintenir attaché quelqu'un parce qu'il pourrait s'évader. Et de toute manière, comme le rappelle l'OIP, il y a des lois au niveau européen et au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple, et on ne peut pas attacher quelqu'un de cette matière-là dans la durée. C'est considéré comme de la torture et de la maltraitance.
Bah, c'est de la torture et de la maltraitance. Là, il n'y a pas de souci là-dessus.
Là, il n'y a pas de souci. 2 semaines, attachés les pieds, les mains et le ventre. Je le répète, mais ça paraît incroyable qu'en France, on en soit encore là, surtout pour soigner des gens, puisqu'un hôpital, un centre hospitalier qui soit lié à la prison ou pas, n'est pas censé maintenir des détenus dans des situations humiliantes, des situations de torture. Donc l'OIP, évidemment, fait un communiqué assez fort et assez important sur ces situations. Malheureusement, c'est pas la seule fois que c'est arrivé. Et il souhaite rappeler que la circulaire du 29 mai 98 de l'administration pénitentiaire, hein, donc c'est quelque chose de très sérieux, considère, je cite, qu'une politique de prévention n'est légitime et efficace que si elle cherche non à contraindre le détenu à ne pas mourir, mais à le restaurer dans sa dimension de sujet et d'acteur de sa vie, ce qui n'est absolument pas le cas ici.
Tu parles de drogue un peu ?
Ouais, alors on a eu un autre communiqué de presse, d'Actop cette fois, qui s'énerve un petit peu sur finalement la manière dont la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie a réussi à changer notre relation et notre rapport aux drogues, c'est-à-dire à notre, finalement, qu'est-ce qu'on en pense, c'est pas tant à notre consommation, mais comment on ressent l'utilisation de drogue dans notre société. Alors, il faut dire qu'il y a une enquête de l'Europe, hein, c'est une enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes qui vient de sortir. Alors, on a pour l'instant que les premiers résultats, hein, puisque c'est une enquête qui a été faite en plusieurs parties. Là, c'est le troisième exercice. L'enquête a été réalisée en 2008 par téléphone sur 2300 personnes âgées de 15 à 75 ans, pour vous donner un petit peu des détails. Et alors là où Actop s'énerve, c'est se demande si, par exemple, est-ce qu'on peut se réjouir que les Français aient une perception plus sévère des usagers de drogue, puisque en fait, c'est ce qui ressort de l'enquête, c'est que finalement, se droguer, c'est mal. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que finalement les drogues dans nos sociétés avaient une meilleure situation, que les gens étaient plus compréhensifs, qu'on pensait que quelqu'un qui prend de l'héroïne était une victime, un malade. Et ben c'est pas exactement ce qui ressort de cette enquête, bien au contraire. Il y a encore l'idée malheureuse que si vous fumez du cannabis, vous allez finir avec une aiguille dans le bras. Alors que scientifiquement, ça a été démontré que c'est pas le cas. Mais c'est vrai que la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, par exemple, sur son site, elle maintient cette idée. Elle ne dit pas que c'est exactement ça, mais quand même, cette idée, elle y est toujours apparente. Donc, cette enquête Europe, elle nous démontre tout ça. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, les gens pensent que fumer du cannabis, ça vous amène à des drogues qui vont vous rendre complètement anéanti, que vous n'êtes pas une victime, mais que vous êtes coupable de vous droguer, que finalement, bon, si, il faudrait soigner les gens, mais que tout ça n'est pas si clair. Et puis surtout, ça dépend de la drogue.
Oui, parce que là, c'est sur les drogues illégales, les drogues légalisées comme l'alcool.
Non, il y a aussi une partie sur le tabac et l'alcool. Mais on se rend compte aussi, du coup, en analysant les réactions sur le tabac et l'alcool, que toute la propagande, hein, qui est à juste titre, hein, sur les femmes enceintes et l'alcool et le tabac, est très bien suivie. Donc ça veut dire que toutes ces explications qu'on nous donne, cette communication et cette propagande qu'on peut vous donner sur la cocaïne, le cannabis, eh ben, elle est du même effet que l'alcool et le tabac, où c'est plutôt une bonne chose que les femmes enceintes, par exemple, ne boivent pas et ne fument pas pendant leur grossesse, c'est plutôt une... Hein, on est tous d'accord là-dessus. Juste que du coup, toute la propagande, elle est pensée comme telle par une partie des Français, et qu'il n'y a aucune analyse derrière, et c'est là où Actop n'est pas très content, c'est qu'ils disent que bon, c'est pas comme ça que nous, on envisage de lutter contre la dépendance, que ça soit sur des drogues légales ou illégales, et qu'il faudrait peut-être un petit peu remettre d'aplomb une vraie communication, une vraie éducation face aux drogues, et que les gens soient très conscients de ce qu'ils consomment, comment ils le font, et de...
Voilà, il rappelle que les drogues ne sont pas un problème, c'est la dépendance aux drogues, que ce soit des drogues légales, mais aussi les médicaments. Hein. On rappelle qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont très, très coincés, hein, avec certains médicaments, certains antidépresseurs, et qu'ils posent sûrement autant de problèmes que l'héroïnomane, qui est très très rare, alors que finalement, le drogué aux médicaments, il est bien plus répandu. Alors on va faire un tout petit break dans le Canu Info, on va donner la parole à quelqu'un qui vient de rentrer, on improvise, il va parler devant le micro et bien proche du micro pour qu'on l'entende bien, il va nous parler de quelqu'un qui est sans papier, qui a été arrêté, enfin, tu vas nous expliquer un petit peu.
Bah c'est très très sympa de me laisser la parole, donc je suis une personne sur le territoire français, et ça fait quelques temps que je connais en fait ce père de famille de 35 ans qui a été arrêté mardi après-midi en fait après un contrôle d'identité sur son lieu de travail. Donc faut savoir que cette personne est algérienne, elle vit depuis 2 ans en France avec sa femme et leurs 2 enfants de 18 mois, et en fait il est parti d'Algérie en fuyant les services de police algériens dans lesquels il travaillait. Donc ce qui évidemment le met en danger, comme vous pouvez l'imaginer, pour son retour dans son pays. Seulement ça, la justice n'en a que faire, quoi, puisqu'il est convoqué devant le juge des libertés très très vite, c'est-à-dire demain. Donc demain matin à 10h au tribunal de grande instance, alors que sa femme a été hospitalisée aujourd'hui pour plusieurs jours. Et donc leurs deux enfants sont séparés de leurs parents pour ces jours, quoi. Donc cette situation est complètement ahurissante, quoi. Et le danger qui court mérite vraiment de se mobiliser. Voilà, donc on appelle vraiment les gens à venir assister à l'audience demain à 10h au tribunal de grande instance. On peut y aller, c'est à l'arrêt de tramway place Guichard. À 10h au juge des libertés au tribunal de grande instance, quoi, pour qu'il reste pas pour qu'il ait du soutien et dans l'espoir que donc lui soit accordé la liberté, quoi. Voilà.
Merci d'être intervenu.
Malheureusement, là, pour inciter les gens un petit peu à se mobiliser, on a toujours l'impression que c'est des cas isolés, que chacun a ses propres problèmes, n'a pas de papier. À chaque fois, il y a des situations familiales très compliquées. Juste que ça, c'est tous les mois, toutes les semaines, partout en France, c'est des choses qui se reproduisent. Donc, on peut pas être de partout, vous allez me dire. Oui, mais si cette fois, vous pouvez être là, c'est toujours bien. D'autres seront là la fois d'après.
Clairement.
Que la France est attaquée de tous les côtés sur ces situations quand même de sans-papiers en France et que c'est assez terrible.
Voilà, donc demain, 10h, au tribunal de grande instance pour soutenir ce travailleur sans-papiers. Ouais. Merci.
Merci.
On reprend, on continue les infos tout court, hein, parce que c'en était une. Je voulais parler de Guadeloupe et de Martinique, de quelque chose qui avait été dénoncé il y a quelques années par le professeur Bellepomme. Alors, le professeur Bellepomme, il est connu, hein, c'est lui qui a écrit un livre qui dit officiellement que le lien entre les cancers et les pesticides existe. Hein, puisqu'il y a toujours cette cause soi-disant inconnue, puisque c'est toujours compliqué de démontrer d'où vient le cancer, etc. Alors, faut dire que là, nous avons une nouvelle étude. Alors, sur un insecticide organochloré, c'est comme ça que ça s'appelle, plus connu sous le nom de chlordécone, qui fut utilisé massivement dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique entre 73 et 93.
On avait fait un gros dossier sur la banane.
On en avait parlé. Et donc, à savoir que l'insecticide a été interdit en 1990 en France, et seulement en 93 en France métropolitaine, je voulais dire ça, et dans nos anciennes colonies en 93. Ça veut dire qu'on estimait qu'eux, ils pouvaient prendre ce genre de produit toxique dans la gueule pendant 3 ans de plus. Qui était
alors
déjà...
ça, dans d'autres pays, ça faisait déjà 15 ans que c'était interdit. Aux États-Unis, ça faisait 70.
Parce que c'est un cancérogène possible pour l'homme. C'est le Centre International de Recherche sur le Cancer, le CIRC, qui le dit, donc on va les croire. Ça a aussi des propriétés hormonales, notamment oestrogènes, donc c'est un perturbateur endocrinien, comme on dit. Donc plein d'infos négatives sur tout ça. Et jusqu'à maintenant, les gens avaient attaqué le professeur Bellepomme en disant que ce qu'il disait, c'était il n'y avait pas de fondement scientifique, c'était des rondis, des suppositions, etc. Sauf que là, il y a un rapport. Et le rapport a étudié finalement 600 hommes atteints du cancer de la prostate dans ces deux régions-là. Et 600 personnes non atteintes de cancer. Et ils ont comparé leur taux de cet insecticide dans leur sang. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, d'après leurs analyses, il y avait 50% de chances d'avoir un cancer quand on avait ces taux importants d'insecticides dans le sang. Donc ça augmenterait de 50% le risque de cancer, ce qui est quand même énorme. Donc voilà, c'est démontré, on le sait, on le savait déjà à l'époque, le principe de précaution, de toute façon, les industriels, puisque là c'est les industriels de la banane, s'en foutaient complètement. Et voilà, c'est juste démontré. Alors le problème, il est pas résolu, parce qu'entre 93 et aujourd'hui, cet insecticide, il y est toujours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la principale contamination, elle n'est plus à travers les fruits qu'ils mangent, mais à travers l'eau qu'ils boivent, puisqu'on en retrouve dans l'eau qu'ils boivent. La contamination de la Martinique et de la Guadeloupe, des terres, est très très importante à cause de ces produits qui mettent des années à se dégrader et à disparaître, voire, pour certains, ne disparaissent jamais. Donc voilà, c'était juste pour redire qu'on le savait déjà, une partie des cancers sont bien dus à des pesticides, des insecticides, et que la seule solution, c'est effectivement de ne pas en mettre.
Oui, et puis manger de la banane est de toute façon quelque chose d'assez terrible, puisqu'on vous rappelle qu'en Amérique du Sud, où on trouve beaucoup hein, sur les marchés, évidemment, il y a la période de la banane de Martinique et de Guadeloupe, mais sinon, le reste de l'année, vous avez effectivement de la banane qui vient d'Amérique du Sud. Et cette banane, on aimerait juste vous rappeler que les ouvriers qui travaillent sont souvent malmenés, voire largement violentés par le patronat local, aidés évidemment par les multinationales du fruit et du légume, en particulier aux États-Unis, qui sont installés dans ces pays, et c'est un peu comme Coca-Cola tue hein, les travailleurs. Et ben là, dans les entreprises
en Colombie,
banane,
hein, pour Coca-Cola.
En Colombie, mais dans d'autres endroits, il n'y a pas de banane en Colombie, mais enfin dans un certain nombre de pays, les ouvriers meurent aussi à cause de la production de bananes que vous pouvez manger.
Ouais, tu vas parler un peu de Lyon maintenant, je
ouais.
crois.
Alors je voulais revenir un petit peu pour terminer, puisqu'on va être en fin de Canu Info, du 21 juin. Hein, vous savez, cette fête de la musique qui a eu lieu. Alors à Lyon,
le truc horrible là, qui faisait du bruit. Hein.
On a beaucoup les trucs horribles. T'es un petit peu réac dans dans ton propos. Moi, ce que je voulais vous parler un petit peu, c'était de cette affiche qui vous a peut-être énervé, surtout si vous êtes militant. Vous avez peut-être vu l'utilisation de ce point rouge qui est parfois utilisé noir, mais qui sur cette affiche était au bout d'un manche de guitare ou de basse. Je me souviens plus bien ce que c'était. Toujours est-il que c'est un point, ce visuel est utilisé par les militants libertaires, communistes, de tous bords, syndicalistes et politiques. Donc il est assez scandaleux de voir encore une fois des gens récupérer évidemment un visuel militant et de gens engagés pour... quand même une mairie qui n'est même plus sociodémocrate, mais qui est largement déclarée par nous comme étant à droite. Alors il faut savoir que ça n'a pas que nous que cette affiche a énervé, mais pas du tout pour les mêmes raisons, puisque c'est en fait Thierry Mouillat qui est adjoint au maire du 6e arrondissement de Lyon, adjoint divers droites, qui n'a pas du tout, lui, apprécié l'affiche révolutionnaire avec son point rouge brandi, et puis surtout son slogan qui est « On travaille moins et on joue plus ». Peut-être que vous vous souvenez de ce slogan. Alors lui, il comprend pas du tout sur son blog comment cette mairie de Lyon a pu utiliser ce slogan en nous disant que quand même, en pleine crise financière, on peut appeler les Lyonnais à moins travailler. Et que surtout, quand même, Monsieur Collomb est un sale gauchiste. Si, je vous jure, c'est ce qu'il dit. Puisque... il dit sur son blog, je le cite, et pour ceux qui se demandent si Gérard Collomb n'est pas un peu centriste, hein, nous c'est ce qu'on pense, même qu'il est carrément plus que centriste, la réponse me paraît sans équivoque. C'est un homme radicalement de gauche qui continue à mettre en avant des théories qui consistent à mettre la population sous perfusion d'une profusion d'aide et d'assistance en tout genre. Non, je le répète, Gérard Collomb n'est pas un centriste, c'est bel et bien un homme de gauche et profondément ancré à gauche. Alors c'est bizarre parce que alors nous, comme on trouve que monsieur Gérard Collomb... est un libéral bien teinté, hein, bien à droite. Ça nous fait beaucoup marrer de voir un adjoint au maire du 6e arrondissement de Lyon déclarer que Gérard Collomb serait un coco gaucho à cause d'un slogan « On travaille moins et on joue plus », juste parce que monsieur Gérard Collomb est un opportuniste qui utilise à la fois un visuel qui appartient...
à la lutte.
Militant et qui utilise un slogan tape à l'œil pour une fête de la musique qu'il a été tout autant parfois dans certains quartiers. C'est effectivement ça que tu reproches, c'est-à-dire que la ville de Lyon
c'était une pique, une boutade.
Non mais en même temps il faut
c'est
bien.
C'est mon allergie au multi batucada dans mon quartier parce que je suis ouvert à toutes les musiques.
Mais on peut penser qu'elles sont venues d'elles-mêmes, alors que parfois la ville de Lyon a organisé des choses extrêmement cadrées, extrêmement normées, et que c'était quand même pas ce qu'avait pensé notre ami Jack à l'époque.
Batucada, ça fait beaucoup.
C'est vrai, de suite, ça fait toujours
pour
beaucoup.
Pour aller dans les autres quartiers.
Donc voilà, on s'amuse beaucoup de lire Thierry Mouillat sur son blog. Hein, vous pouvez aller voir parce que tout le blog est de la même teneur. Donc traiter monsieur Collomb de gauchiste m'a fait beaucoup rigoler.
Ouais, parce que c'est pas crédible.
Et juste pour vous dire, puisque j'ai le bulletin municipal officiel de la ville de Lyon, hein, ce qu'on appelle le BMO en petit nom, donc c'est celui du 21 juin 2010, et donc il y a une partie qui correspond à l'arrêté municipal
Sur la fête de la musique.
Sur la fête de la musique.
Et alors, on a appris qu'il y avait plein d'interdictions.
Plein d'interdictions.
En fait, le pays de la liberté et des droits de l'homme, c'est plutôt le pays de la non-liberté et de la répression. Quoi.
Alors, je vous place les considérants que, j'en viens tout de suite à l'acte premier, qui dit que donc dans le premier arrondissement, le deuxième, une partie du troisième, du sixième, du septième, du cinquième, du quatrième, du huitième, du neuvième, bon, en fait, pratiquement
presque
partout, sont interdits. La vente d'alcool à emporter. L'accès et la présence des chiens de première et de deuxième catégorie, même muselés et tenus en laisse. La consommation d'alcool sur la voie publique en dehors des lieux réservés à cet effet. La vente à emporter de boissons dans des récipients en verre, puisque le considérant que nous disait que peut-être vous auriez pu les jeter sur les forces de l'ordre. C'est écrit juste avant. Je vous explique pourquoi c'est interdit. La détention et le transport de boissons dans des récipients en verre sur la voie publique. Hein, c'est écrit deux fois, comme ça vous êtes bien sûr d'avoir bien compris. La détention et l'usage de pétards et de feux d'artifice sur la voie publique. Et ouais, tout ça c'était interdit lundi 21 juin. Donc si on ajoute à la côté très normalisé de cette soirée, de cette journée, plus à toutes les interdictions qui sont quand même de plus en plus importantes. Bon, par contre, dans le même numéro, j'ai rien trouvé sur la Coupe du Monde, mais ça, après tout, de football, je précise, pardon. Parce que ça aurait pu être la Coupe du Monde de pétanque, mais non, c'est bien le football dont je vous parle. Donc voilà, on est quand même dans une ville qui nous cadre et nous empêche de picoler comme on veut, hein. Dans une bouteille en verre. Donc voilà, maintenant vous saurez que donc sur ce genre de fête, vous devez avoir une bouteille en plastique dans laquelle vous aurez transversé votre alcool. Je vous y incite pas, je vous explique comment il faut faire, c'est pas pareil. Que donc, si vous avez votre chien-chien de première ou deuxième catégorie, vous n'êtes pas censé l'avoir avec vous. Et que voilà, enfin bon...
Et puis, pas de pétard s'il vous plaît, parce que bon, hein, on n'a pas le droit de faire la fête. On fait la fête en silence, vous écoutez juste la musique, vous faites pas de pétard s'il vous plaît.
Ouais, il faut que ça soit bien cadré.
Peut-être qu'ils vont interdire le pétard pour le 14 juillet, le feu d'artifice plutôt, mais...
Oh, on sait jamais, sait-on jamais, quoi. Enfin voilà, une belle fête, encore bien cadrée.
T'as un petit mot sur le siège de la région Rhône-Alpes, puis après on passe à l'agenda.
Ouais, alors il faut savoir que le chantier du siège de la région Rhône-Alpes connaît quelques difficultés, puisque c'est l'inspection du travail qui est intervenue, puisqu'elle a relevé sur le site une liste impressionnante de risques sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés qui interviennent sur le chantier.
Oui,
là, j'ai cité hein, du risque à chantier. Donc, le 14 juin, elle a signé le conseil régional en référé, demandant l'arrêt immédiat du chantier, puisqu'il faut savoir que donc elle a trouvé plein de manquements, le câble électrique dans l'eau, manque de sanitaire, amoncellement de déchets sur les voies de circulation, non-conformité des barrières et des filets de protection sur les toits, produits chimiques non protégés, stockage de matériaux très lourds, trop lourds dans les étages, absence de clôture de chantier, tout ça évidemment qui met en danger les travailleurs. Il faut savoir que bon, les entreprises sur place se cumulent puisqu'il y en a 39, donc tout ça. Vous pourriez me dire, ah bah ouais, ça rend difficile la sécurité. Non, puisque la sécurité sur un chantier, tout est extrêmement réglementé, donc tout ça devrait suivre. L'inspection du travail n'intervient pas pour rien. Donc il y a une nouvelle audience le 28 juin prochain pour savoir si le chantier va pouvoir repartir. C'était quand même un nouveau siège pour la région Rhône-Alpes qui devait être référencé haute qualité environnementale, qui censé promouvoir le personnel en insertion et l'accessibilité aux handicapés. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses hein, sur ce nouveau siège qui coûte beaucoup d'argent, puisque c'est 140 millions d'euros qui est à peu près évolué. C'est quand même encore pas une petite somme. Il faut savoir que c'est un des rares projets qui a été, mais alors, attaqué par la droite d'une manière mais intégrale et complète, ce qui est très très rare hein, que ça soit aussi important. Donc, on espère que les travailleurs vont pouvoir être en situation de protection importante s'il y a reprise et que la région Rhône-Alpes respecte un petit peu la réglementation et arrête de nous balader avec des hautes qualités environnementales et tout ce blabla développement durable qui est censé cacher toutes les malversations qui accompagnent toute construction publique la plupart du temps. Voilà.
Voilà, juste pour rappeler aussi que la Friche RVI est en instance de se faire virer. La Friche RVI, c'est quoi, avenue La Cassagne, 35 000 mètres carrés, qu'utilisent des artistes, enfin plein de gens. Il y a un énorme atelier vélo. Vous pouvez passer les voir, hein, ils sont assez sympas, hein, ils sont même très sympas.
Accueillants.
Ils font des réunions tous les soirs, je crois que c'est vers 19h, pour préparer la résistance ou la suite, puisque la mairie qui veut les expulser au 31 juillet leur propose quelques milliers de mètres carrés par rapport aux 35 000, c'est assez loin de la réalité. Et pourtant, bizarrement, c'est à la Friche que se construit un des chars pour le défilé de la Biennale de la Danse. Enfin voilà, quand la mairie ou les instances officielles ont besoin d'utiliser ces lieux alternatifs, ça pose pas de problème. Mais par contre, bah voilà, s'ils disparaissent, ça va faire un manque. Donc il y a des mobilisations, on en reparlera. Pour ceux qui font du vélo et qui sont intéressés, vous pouvez aller à la Vélorussion de samedi, il y aura des gens de la Friche, puisqu'il y a toujours ces fameux vélos un peu spéciaux que fabrique l'atelier vélo de la Friche.
Très beau vélo.
Ouais. Petit agenda ?
Ah bah allons-y.
You ready ? Alors pour ce soir, moi j'ai un petit agenda culturel. On est sur les pentes de la Croix-Rousse, il y a le retour du Fils de la Vengeance des Jeudis des Musiques du Monde. Donc la soirée de ce soir, donc c'est tous les jeudis, c'est... comment ça s'appelle ? En face de Diderot.
Jardin des Chartreux.
Jardin des Chartreux, très bien. Donc ce soir, c'est une soirée Irlande.
Oui, alors cette année, c'est très bizarre, je trouve, cette programmation annoncée soirée Irlande, soirée par pays.
Bon, c'était souvent un peu comme ça.
Non, c'était plus annoncé. D'abord, les artistes étaient mis en avant. Voilà, je trouve juste que cette nouvelle présentation est un petit peu particulière.
Donc avec les Epi Maurice, Shelta et des sessions irlandaises, ce soir. Voilà, ça va durer tout l'été. Donc on vous redonnera un peu les annonces tout au long de ces canaux info. Oui, parce que moi j'irai voir la soirée Klezmer, parce que j'aime bien la musique Klezmer.
Très bien, on est très content.
c'est pour montrer que je suis pas antisémite, il y a des bruits, tout ça, là, machin. Non, c'est... qu'est-ce que tu voulais annoncer d'autre, toi ?
Rien.
Non, mais si, t'es obligé de faire un... L'agenda, il se fait à deux.
Non, mais j'ai rien à annoncer. Il y a la Vélorussion, samedi, 26.
Voilà, elle veut pas annoncer. Elle veut pas annoncer de choses. Vous notez quand même une dissension dans le Canu Info. Nous sommes pas d'accord. Moi, j'y vais annoncer, alors. Hein. Donc, demain, on est vendredi 25. Qu'est-ce qu'on a demain ? Projection ciné-travail, deux films, La sortie des usines et Pour mémoire. C'est au Dodescadon, 51, montée de la Grande Côte, sur les pentes de la Croix-Rousse, à 20h30. Ça, c'est pour ciné-travail. Sinon, dans les deux soirées, pour clôturer et pour fermer La Plume Noire, vous savez, c'est la librairie libertaire rue Pierre Blanc, sur les pentes de la Croix-Rousse, qui va fermer, qui réouvrira ailleurs à la rentrée. Donc demain, il y a à 20h30, un concert d'expérimental. Donc c'est autrefois c'était du rap, et là, c'est plutôt de la chanson rock. Et puis après, il y a un sound system par le célébrissime animateur de Radio Canu et l'ancien de la Dub Action qui s'appelle King Milouz. Hein, là, ça va dépoter un peu, dépoter façon reggae. Donc voilà pour demain. Pour samedi, donc La Plume Noire continue son week-end de fin, on va dire, avec à 15h un débat qui s'appelle Les anarchistes et les luttes ouvrières. Donc débat qui peut être sympa. Ensuite, à partir de 19h, il y aura un repas de soutien et puis un concert de Walter. Voilà, pour terminer en musique et fermer La Plume Noire samedi soir.
Si vous n'êtes jamais allé à La Plume Noire, c'est...
L'occasion ou jamais.
Voilà, hein,
il vous reste deux jours,
quoi.
Vendredi, samedi. Sinon, si vous êtes, comme tu le disais, vélo-cycliste ou cycliste, vous pouvez venir à la Vélorussion du mois de juin, une Vélorussion normale, on va se balader. Départ à 15h devant l'Opéra. Voilà, en plus il fait beau et chaud, donc tout va bien. Sinon, toujours Ciné-Travail qui projette à l'ouest des rails, au Dodescadon, samedi à 18h, 51 montée de la Grande Côte. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais annoncer pour samedi. Pour la semaine prochaine, je n'ai rien d'autre non plus à annoncer, donc voilà, je crois que c'est tout. Tu n'avais rien d'autre à dire ?
Non.
C'est tout ?
C'est tout.
Il est 20h, passé de 7 minutes.
Et comme vous l'aurez compris...
Il n'y avait pas la bande à Spartacus, sinon on n'aurait pas mangé leur horaire.
Et non.
Sinon ils nous auraient tapé. C'est bon peur. Hein. Donc la lutte des classes, tout ça, la résistance, la révolution, c'est pour la semaine prochaine. Hein, parce que là...
C'est pas pour ce soir.
C'est pas pour ce soir, ils sont pas là, non. Alors peut-être qu'ils sont allés à l'AG, parce qu'il y avait une AG après la manif cet après-midi, tout ça, ils sont peut-être allés préparer la révolution plutôt que d'en parler. Hein. Non, c'est pas ça ? T'en as marre ?
Bah, je suis donc content d'y aller maintenant, quoi.
Eh ben, nous allons vous laisser en compagnie des bandes continues de la plus rebelle des radios et on se retrouve demain pour le prochain Canu Info.
Ciao.
Bye.